on reçoit une femme qui a tout un CV en première partie. Je vais y aller, donc coprésidente du Comité global pour la décennie internationale des langues autochtones, docteur en médecine générale à l'université Mouloud Mameiri Tizi Ouzou en Algérie, master en action humanitaire, baccalauréat en éducation, ancienne présidente de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones.
Écoute donc, c'est intimidant de vous parler. Vous, bonjour, vous êtes là?
Oui.
Est-ce que vous en avez des qualités et des compétences?
Ben oui, Mariam Ouellet Mohamed Aboubakrine, excusez-moi.
Vous êtes là toujours?
Oui.
Oui, bonjour, Koué, ça va bien?
Oui, ça va bien, vous?
Oui, ça va, merci. C'est tout aussi intimidant d'être en ligne.
Donc, vous voulez nous parler des langues autochtones aujourd'hui parce qu'on est dans la décennie des langues autochtones qui a été décrétée par l'ONU. Qu'est-ce que ça fait, ça, justement, cette décennie-là? C'est un exercice de sensibilisation aux langues autochtones. Est-ce qu'il y a des actions concrètes aussi qui peuvent être liées à ce décret de l'ONU que nous sommes dans la décennie internationale des langues autochtones?
Alors, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de parler de la décennie internationale des langues autochtones. En fait, ça fait des décennies. Il y a plusieurs décennies que des membres de nations autochtones de par le monde viennent se plaindre à l'ONU pour parler de la situation critique de leur langue. Il y en a qui nous reportaient en fait que le dernier orateur de la langue venait de partir rejoindre les ancêtres. Et par rapport à cette situation, l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones a tenu deux rencontres de groupes d'experts en 2008 et puis en 2016 pour voir avec les peuples autochtones, mais également avec les Nations Unies et d'autres partenaires comme des partenaires dans les NTIC ou les institutions de recherche comme les universités, de voir comment est-ce que finalement on peut traiter de cette question, comment on peut faire pour que ces langues ne soient plus perdues. Donc c'est dans cette idée-là que l'instance, suite à sa dernière rencontre de groupe d'experts de 2016 dont j'avais eu le privilège de faire partie, avait transmis en fait un des messages importants de cette rencontre que l'ONU devait retenir une année internationale des langues autochtones. Donc, elle demandait à l'ONU d'avoir cette année avant 2020. Et l'ONU, par belle surprise, avait décrété 2019 comme année internationale des langues autochtones. Et ça, c'était pour vraiment attirer, pour promouvoir ces langues déjà, parce que les peuples autochtones avaient vraiment mis l'accent sur le fait que les langues, pour eux, c'est pas seulement un moyen de communication. C'est là où nos connaissances traditionnelles, c'est là où notre histoire, nos façons de gouverner, mais également les messages que la terre-mère nous transmettait, c'est tout ce véhicule-là, c'est ce que comprennent nos langues. Donc, il était important de les promouvoir, mais aussi de les préserver, de les revitaliser. Donc, c'était ça pour l'année. Mais quand on se rend compte que déjà la bureaucratie, l'administration autour de l'année, ben au moment où c'était résolu, ben l'année était déjà finie. C'est sûr que ça ne permettrait pas d'atteindre ces trois objectifs que j'avais cités. Et du coup, à la fin de l'année, on avait aussi demandé à un ensemble de partenaires autochtones et puis de leurs alliés, avaient demandé qu'une décennie soit proclamée. Parce qu'une
c'est ce qui est fait maintenant, Mariam. Juste une question de précision. qu'est-ce qui fait qu'une langue est considérée comme autochtone et non pas une langue tout court? Et les langues que l'on parle maintenant, répandues partout, ont déjà été finalement des langues autochtones à l'origine.
Oui, en fait, ce qui fait qu'une langue est autochtone ou pas, c'est, je pense qu'il y avait une erreur dans la formulation de la résolution et les peuples autochtones n'ont pas cessé de le mentionner. En fait, c'est la décennie des langues des peuples autochtones. Donc, ce qui fait de ces langues qu'elles sont autochtones ou pas, c'est qu'elles sont parlées ou que des membres de nations autochtones s'identifient par rapport à ces langues. Je vous donne un exemple. Moi, j'appartiens au peuple Keltamashart et nous, connus en français comme le peuple Touareg, et nous, on s'identifie par rapport à notre langue. Nous sommes nommés ceux qui parlent la langue Tamashart. Donc, Keltamashart veut dire tout court dans notre langue, ceux qui parlent cette langue. Donc, les langues autochtones, c'est vraiment les langues des peuples autochtones. C'est juste ça la différence.
Quand on travaille comme vous en coopération avec des gens à l'ONU, on voit l'ONU comme presque une institution inaccessible. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières à évoluer dans ce milieu de l'ONU?
Il faut se rappeler que normalement l'ONU est là pour les peuples, donc pour tous les peuples. Donc lors de la création de l'ONU, de la Société des Nations qui a donné suite à l'ONU, ben c'était vraiment la maison de tous les peuples. Mais c'est sûr que maintenant c'est devenu une institution entre nations, mais État-nation. Et actuellement, il y a un grand travail de plaidoyer auquel justement je suis dans lequel je suis impliquée aussi sur la participation des peuples autochtones aux Nations Unies. En fait, les peuples autochtones veulent être entendus et participer aux Nations Unies en tant que peuple, mais pour l'instant, la façon dont nous participons aux Nations Unies, c'est juste en tant qu'organisation non gouvernementale. Donc, dans l'Organisation des Nations Unies, les États membres, donc le Canada, par exemple, la France, etc., c'est ceux-là qui sont membres et qui ont les statuts de membres et qui peuvent influencer, par exemple, vraiment, qui peuvent donner les grandes lignes d'orientation et les décisions au sein de l'instance des Nations Unies. Nous sommes là-bas en tant qu'organisation non gouvernementale et société civile, et de ce fait, nous sommes souvent observateurs, mais on n'influence pas vraiment les décisions. Mais il y a quand même un progrès qui est fait dans ce sens, et certains États, par exemple, comme le Canada, comme la Nouvelle-Zélande et bien d'autres, essayent d'intégrer des membres de nations autochtones dans leurs délégations, mais aussi sont en train de nous aider à plaider pour que les peuples autochtones puissent influencer les agendas et les décisions de l'ONU.
Par exemple, si on veut avoir un exemple concret de ça, il y a la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones où plusieurs membres de nations autochtones à travers le monde sont allés plaider à l'ONU et ça a été ramené à l'Assemblée générale des Nations Unies pour qu'on vote cette déclaration-là.
Alors, je vais vous donner trois exemples concrets et puis après je vous viens à la déclaration. Donc, les trois exemples concrets, c'est plutôt l'existence maintenant, donc la création de ce forum-là, de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. C'est un espace, donc c'est un organe subsidiaire du Conseil économique et social des Nations Unies où les peuples autochtones participent juste en tant qu'autochtones. On n'a pas à être autre et puis nous sommes privilégiés. C'est deux semaines de discussion avec les États membres, avec les organisations des Nations Unies chaque année. Et on a aussi le mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones. c'est aussi un mécanisme totalement multipartite, mais avec le leadership des Autochtones au sein du Conseil des droits de l'homme. Et on a le rapporteur spécial qui est un mécanisme, qui est une procédure spéciale aussi qui émane du Conseil des droits de l'homme pour les droits des peuples autochtones. D'ailleurs, le rapporteur spécial avait rendu visite au Canada pendant le mois dernier pour rapporter sur les questions de droits de l'homme des peuples autochtones ici au Canada. Et il fait d'autres visites à travers le monde. Donc ça, c'est trois exemples concrets de comment est-ce que nous avons nos voix au sein de l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, oui, la déclaration, en fait, on sait qu'il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ces droits-là, ce sont les droits fondamentaux pour tout être humain, pour l'environnement et nous tous. Malheureusement, on s'est rendu compte que dans la mise en œuvre de cette déclaration universelle, les droits des peuples autochtones ont été mis de côté. C'est comme si nous étions des membres de ces nations, États-nations, mais auxquels les droits ne s'appliquent pas. C'est pourquoi la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été rédigée et puis adoptée. C'est la traduction, en fait, de ces droits universels, mais pour les peuples autochtones. Donc, comment est-ce qu'on assure l'accès à l'eau aux peuples autochtones? Comment est-ce qu'on assure l'autodétermination aux peuples autochtones? La santé, l'accès à la santé, à l'éducation aux peuples autochtones. Donc, c'est ça l'idée, en fait, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui a été aussi adoptée par la plupart des pays à travers le monde et notamment au Canada tout dernièrement. Depuis 2016, le Canada même a fait un pas supplémentaire pour avoir le plan d'action pour la mise en œuvre de la déclaration qui est en cours de négociation et de construction ici au pays.
Mariam, je voudrais oser une question avec vous avant qu'on fasse un petit arrêt de pause musicale. Vous avez un chapelet de diplômes, c'est absolument extraordinaire, c'est spectaculaire, mais il y en a un qui m'intrigue. Et qu'est-ce qu'on y fait quand on veut passer un master en action humanitaire à l'Université de Genève?
Oui, ça c'est intéressant. En fait, je vais vous dire, le plus important déjà de mes diplômes, c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents, donc l'éducation que j'ai reçue dans la communauté. Ce diplôme ne figure pas dans mon CV, puis je ne vois pas où le mettre, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet vraiment d'être en lien avec d'autres nations autochtones, avec des sœurs et frères. Donc, je voudrais déjà mentionner ça. C'est vraiment important pour moi. Maintenant, pour ce qui est...
Revenons à Genève, oui.
Oui, revenons à Genève. Pour Genève, en fait, ce master en action humanitaire, c'est un diplôme qui permet à tout professionnel, que vous soyez juriste, que vous soyez médecin, que vous soyez enseignant, mais que vous vouliez pratiquer dans des contextes de conflits ou dans des contexte humanitaire, mais votre diplôme de médecine ou votre diplôme d'éducation ou votre diplôme de journaliste ou votre diplôme de juriste ne vous suffit pas. Il faudrait porter d'autres lunettes. Ce sont les lunettes d'action en contexte humanitaire. Et les contextes humanitaires sont vraiment variables. Quand on parle humanitaire, on pense souvent aux conflits, mais il y a les conflits, bien sûr, il y a les déplacés internes, il y a aussi la plupart de nos communautés autochtones, là, les réserves et tout ça. Certaines sont vraiment en situation humanitaire, là où on n'a pas accès à l'eau, là où les structures ne sont pas les structures où tout est disponible quand on le veut, comme on le veut. Mais tout ça, pour moi, ce sont des contextes humanitaires. Donc, c'est nous outiller à travailler dans ce type de contexte que ce master vous prend toute sa place, en fait.
Madame Aboubakrine, je m'excuse. On va prendre une petite pause musicale, on vous revient tout de suite après.
OK, merci.
On est de retour avec Mariam Walet Mohamed Aboubakrine.
Madame, j'ai une question à vous poser. Vous êtes particulièrement habile et heureusement d'ailleurs parce que vous avez accompli beaucoup de choses dans ces organismes internationaux, institutions, comités, etc. Mais vous, personnellement, est-ce que ils avaient une fierté particulière de certains accomplissements dans votre dans vos démarches?
Ça, c'est une bonne question. J'ai pas pensé à ça, mais oui, bien sûr. Ben, chaque jour qui passe, c'est une fierté. Je sais qu'il y a eu, il y a des progrès. On peut pas toujours les sentir, mais déjà, par exemple, dans le contexte canadien, ben, je sens qu'il y a eu des progrès pour ce qui est des droits des peuples autochtones. J'ai vu le changement radical de la position du Canada par rapport à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et je suis fière d'avoir participé au mouvement qui a fait le plaidoyer pour ça et aussi qui a fait le plaidoyer pour que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones soit adoptée par le Parlement canadien. Donc, j'étais dans une conférence de presse qu'on a donnée à la galerie de presse en face du Parlement sur ça. Je pense que ça a été un bon coup de pouce pour la situation actuelle et puis nous continuons en fait l'engagement pour que le plan d'action aussi pour la mise en œuvre de la déclaration inclut le maximum de perspectives autochtones ici. Mais au niveau global aussi, il y a des progrès. Nous sommes, comme j'avais dit, en train de poursuivre le plaidoyer pour qu'il y ait vraiment une place pour les représentants des institutions autochtones en tant que telles, pas en tant qu'organisation non gouvernementale à l'ONU. Donc, pour notre participation là-bas, on poursuit ça et puis c'est en bonne voie. Ben, tous ces petits progrès, ben, pour moi, ce sont des choses à célébrer, des accomplissements à célébrer au jour le jour. Tout dernièrement aussi, j'ai contribué à un énorme projet de recherche globale qui permettra aux peuples autochtones de diriger eux-mêmes la recherche pour ce qui est de leur priorité à la réconciliation avec la terre-mère, donc à la santé ou au bien-être de tous. C'est un projet de recherche nommé Aramat, qui veut dire dans ma langue autochtone, Tamasak, un état de santé et de bien-être partagé par l'environnement, les êtres humains, les animaux et d'autres êtres vivants et non vivants.
C'est donc, un mot qui... C'est Aramat, le mot, hein? Aramat?
Oui, Aramat. Donc déjà, ce projet de recherche, on l'a nommé ainsi, on l'a autochtonisé. On n'a pas seulement utilisé des mots qui viennent de la recherche coloniale, mais on a eu le courage d'autochtoniser ça, d'emprunter le chemin de l'autochtonisation. Donc, je trouve que tous ces accomplissements sont tous aussi importants pour moi et aussi pour d'autres membres de nations autochtones. Je ne vois pas d'accomplissement personnel ou que je peux proclamer personnel. Tout ce que j'ai pu accomplir, je l'ai accompli grâce au soutien de ma famille, mais aussi de ma famille biologique, mais aussi de ma famille sociale et autochtone.
Mais comme votre famille, vos parents vous ont si bien élevé, vos parents seraient très fiers de vos accomplissements, non?
Je pense que cette question devrait être posée à mes parents. Je suppose, oui, en tant que parente moi-même, mais j'ai une fille de 4 ans, je pense que oui, tout succès d'une fille ou d'un fils, c'est aussi le succès non seulement de ses parents, mais aussi de sa communauté. Parce que, par exemple, quand j'avais été élue présidente de l'instance permanente, ben j'ai reçu des milliers de messages de félicitations et de fierté de personnes ici de ma communauté, ben de par 5 pays. En fait, les Keltamashak, mon peuple, on a été divisé, en fait notre territoire a été divisé en 5 pays, et tous les gens qui sont de ces 5 pays, de la partie de ces 5 pays qui est notre territoire, ben, m'ont félicité pour ça. Je pense que ça, c'était aussi un moment de fierté pour moi, mais aussi de responsabilité, parce que je me dis que toutes ces personnes me regardent, toutes ces personnes comptent sur moi pour porter leur voix. Donc, ça, c'est à la fois des moments de responsabilité, mais aussi de fierté.
Si on revient aux langues autochtones d'un point de vue international, quel constat on peut faire aujourd'hui en 2023 face à ces langues-là? Est-ce qu'on voit de la progression en général de l'utilisation? Est-ce qu'on voit beaucoup de risques? Comme votre propre langue, est-ce qu'elle elle se maintient, elle va bien ou on a des écueils?
En fait, ce qu'on a vu au niveau international, en tout cas dans les cercles auxquels j'ai participé ou dont j'ai fait partie, il y a des langues autochtones qui sont vraiment en situation critique parce qu'elles n'ont plus de locuteurs et elles n'ont pas été sauvegardées.
Donc, comme ma langue, la Benaki, par exemple.
Voilà. Maintenant, il y a d'autres langues qui sont parlées, mais qui ne sont pas écrites ou pour lesquelles il n'y a pas suffisamment de ressources. Donc, il n'y a pas de ressources qui vont permettre à la langue de vivre. Parce que pour qu'une langue continue de vivre et qu'elle soit préservée, il faut aussi qu'elle soit pratiquée. Il faut pas différents aspects. La langue, comme je l'ai dit, c'est pas seulement parler. On peut la parler, mais si on ne l'utilise pas dans différents aspects de la vie, par exemple, il y a le domaine des arts, mais il y a aussi le domaine du travail, par exemple, l'utiliser dans nos courriels, dans les instruments de communication ou des canaux de communication aussi. Mais là, on va juste préserver la partie privée de la langue, par exemple, juste la communication familiale, si elle est juste utilisée dans la sphère privée, et tout l'autre aspect, tous les autres aspects de la langue vont être perdus. Donc, il y avait des langues qui étaient dans cette situation. Et il y a des langues aussi qui sont complètement bien préservées, pour lesquelles il y a suffisamment de ressources qui sont générées. Je sais que au niveau de...
Rapidement, en terminant, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter en 20 secondes?
Ben, on va se souhaiter que vraiment la décennie internationale des langues autochtones 2022-2032 soit une réelle opportunité d'action concrète pour que nos langues soient non seulement promues, mais également qu'elles soient revitalisées et qu'elles soient préservées, qu'il y ait des ressources concrètes.
Madame Aboukrine, c'est terminé. Je vous dis Olioni, ça veut dire merci à Anabenaki. Et vous me direz si je le dis comme il faut. Tenemert, merci.
Oui, bravo, merci Tenemert.